Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec l'éditorialiste Étienne Darjac. Bonsoir Étienne, bonsoir à nouveau.
Bonsoir Marc.
Thomas Morel du service Société et Économie de Valeurs Actuelles. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Marc.
Et nous accueillons le député du Pas-de-Calais, Emmanuel Berry. Bonsoir monsieur le député.
Bonsoir messieurs.
On va parler avec vous du Loup. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription du Pas-de-Calais. Les débats parlementaires sur le Loup se concentrent actuellement autour du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole examinée à l'Assemblée nationale depuis le 19 mai. Débat qui devrait se conclure autour d'un vote solennel le 2 juin prochain. Le sujet est devenu l'un des points les plus explosifs du texte, puisqu'au croisement des tensions entre le monde agricole et les défenseurs de l'environnement, Emmanuel Bléry, vous êtes, comme les députés de votre groupe et de vos alliés de l'UDR, favorable à une régulation plus franche de cette espèce prédatrice qui est le loup. Première question, Emmanuel Bléry, puisque vous êtes élu dans le Pas-de-Calais, est-ce que les loups sont remontés jusqu'à Bapaume ?
Très bonne question. Alors non, la seule trace que l'on aurait du loup, effectivement, c'est dans le département du Nord, et en tout cas, on a une trace qui a été constatée par l'OFB dans l'Aisne. Donc finalement, le département du Pas-de-Calais...
OFB, Office français de la biodiversité.
Absolument, oui. Peut-être entouré du loup, et donc il va arriver tôt ou tard dans le Pas-de-Calais. Donc moi, je fais ça dans une démarche plutôt préventive pour mes éleveurs, mais en tout cas, voilà, nous sommes députés de la nation, on a agi pour l'ensemble des agriculteurs de France, de notre pays.
On sait que c'est un sujet assez explosif, ce sujet du loup, puisqu'on on l'a dit, hein, c'est vraiment le symbole de l'opposition entre des écologistes que certains définissent comme parisiens, déconnectés des réalités du monde agricole, et évidemment une ruralité qui est très représentée par l'Assemblée nationale, puisqu'on rappelle que vous avez surtout remporté des circonscriptions rurales. Ça s'est vu dans les débats, ces espèces de visions un peu irréconciliables justement entre ceux qui veulent le loup à tout prix et ceux qui veulent le réguler pour le bien des agriculteurs. Est-ce qu'on peut caricaturer ça un petit peu comme ça ?
On peut le caricaturer de temps en temps quand même. C'est-à-dire qu'on a deux visions. On a la vision de la ruralité. Effectivement, nous, députés RN, représentants majoritairement de la ruralité. Et donc, quand nous représentons la ruralité, nous avons les deux pieds dans le bon sens, les deux pieds dans la terre. C'est grâce à ça que nous sommes pragmatiques. En face, nous avons affaire à des idéologues, et notamment sur le loup. Moi, je me suis posé une question durant ces débats. Pourquoi ont-ils levé la contrainte donc du frelon asiatique vis-à-vis donc de l'abeille, et pourquoi avoir fait de l'idéologie vis-à-vis du loup? La seule réponse que je me suis donnée à cela, c'est que le loup attaque des bovins, des ovins, qui produisent notamment de la viande à la fin. Finalement, le loup vient servir une idéologie qui est celle de l'extrême gauche. Mais pour être très précis sur le loup, pourquoi nous considérons que c'est une contrainte? Déjà, parlons du monde agricole dans sa majeure partie. Le monde agricole subit des contraintes qui sont souvent effectivement imposées par les hommes et les femmes politiques, et il faut le dire depuis Bruxelles. Et puis il y a des contraintes naturelles. Le loup en est une, c'est une contrainte supplémentaire. C'est 13 000 bêtes qui ont été prédatées donc l'année dernière, en 2025. Nous considérons au Rassemblement national qu'il faut effectivement agir avec pragmatisme. Par territoire. Nous sommes là aussi pour expliquer que l'éradication du loup ne peut pas se faire, ne pourrait même pas exister de toute façon, mais nous
parce
devons
serait,
agir.
Parce qu'elle n'est pas souhaitable ou parce qu'elle est impossible, tout simplement ?
Parce que, alors, pour être très clair, elle n'est pas souhaitable et elle serait de toute façon impossible. La problématique du loup ne date pas d'aujourd'hui, même si revenus sur le territoire français depuis un peu plus de 30 ans, la problématique de loups remonte à Charlemagne et la création des lieutenants de louveterie, où à l'époque, il fallait effectivement agir vis-à-vis de cette espèce.
Et justement, Emmanuel Berry, c'est ça, on le disait un petit peu en préambule de l'émission, c'est qu'on a mis plus de 1000 ans à éradiquer le loup de France, et on le voit revenir en masse et de manière totalement incontrôlée. Donc, est-ce que c'est impossible aujourd'hui de demander son éradication, par exemple? Je dis pas que c'est quelque chose que je souhaite, mais c'est en tout cas, quand on écoute certains éleveurs et certaines voix dans la ruralité, la question se repose, quoi.
Il y a la seule loi d'éradication qui existe dans notre pays date de 1999 et elle est relative aux animaux de compagnie, notamment des chiens de première catégorie. Donc cette loi a 27 ans aujourd'hui, elle n'a pas éradiqué l'animal, le chien de première catégorie. Et pourtant, qui est, lui, plutôt docile, en tout cas, qu'on peut appréhender. Le loup, on ne peut pas l'appréhender. Le loup vous surveille pendant que vous ne pouvez pas le surveiller. C'est une autre manière de l'aborder. Il faut une gestion cinégétique, c'est-à-dire trouver le point d'équilibre entre l'espèce qui se reproduit et effectivement de donner, en même temps, tous les moyens aux éleveurs de se protéger. Et c'était tout le sens de l'article 14 de ce projet de loi d'urgence agricole.
Et quel rôle, justement, parce qu'on a l'impression, alors quand on écoute le gouvernement, on a l'impression qu'il y a ils ont une position, on va dire, assez centriste, c'est une redondance, mais qu'en tout cas, ils abondent plutôt dans votre sens, en tout cas, ils sont pas du tout fermés à cette question. Comment expliquer que certains organismes de l'État, comme l'Office français pour la biodiversité, etc., penchent quand même idéologiquement plutôt contre vous?
L'Office français de la biodiversité devra de toute façon être réformé. Nous avons connu des établissements qui ont fusionné il y a de ça quelques années maintenant. Et on a fusionné, si vous voulez, même des idéologies. D'un côté, c'était l'Agence de l'eau, et de l'autre, l'ONCFS, qui gérait notamment la chasse, la police de la chasse, la police des espèces sauvages. D'ailleurs, j'ai déposé un amendement pour reprioriser les missions de l'Office français de la biodiversité. Et effectivement, on peut le dire, en son sein, on retrouve certaines personnes qui sont effectivement plutôt idéologiques. Mais moi, je ne jette pas, si vous voulez, l'opprobre sur les fonctionnaires. Je suis moi-même fonctionnaire. Je sais qu'ils font un boulot assez difficile et qu'ils agissent selon les règles et les lois en vigueur. Simplement, je ne veux pas que l'Office français de la biodiversité devienne, comme l'appellent d'ailleurs les écolos, les forces de l'ordre de l'environnement. J'entends des choses complètement lunaires. Ce seraient des forces de l'ordre de l'environnement. C'est-à-dire que pendant que ces gens, pour certains extrêmes gauches, voudraient désarmer les bacs dans nos banlieues, ils voudraient surarmer en compétences judiciaires et en matériel l'Office français de la biodiversité. Je crois que l'Office français de la biodiversité, l'OFB, doit être recentré sur plusieurs missions. La première, la police de la chasse, évidemment, puisque c'est le cœur de son métier, et cette fois-ci depuis les ordonnances de Colbert, donc c'est pas ce matin. Et de l'autre, on doit avoir une entité administrative qui accompagne le monde rural. Parce qu'en réalité, l'agriculteur, lui, avec toutes ses normes, il passe au moins une journée par semaine à faire de la paperasse pour se justifier. Et pour faire appliquer ses normes, il voit arriver l'OFB un petit matin avec, il faut le dire, dans la doctrine d'emploi, la main sur l'arme pour faire un contrôle qui va durer des heures. Mais pendant ce temps-là, l'agriculteur ne produit pas, et pourtant il est né pour ça, pour produire.
Donc c'est est-ce qu'on pourrait pas militer, par exemple, pour inclure davantage peut-être les chasseurs aussi dans... que les chasseurs ont un droit de regard dans l'OFB, en tout cas que finalement, on a tendance à beaucoup opposer justement la défense de la biodiversité et la chasse, alors qu'en réalité, la chasse concourt à la régulation de la biodiversité et à...
Les plus grands protecteurs de la biodiversité, les plus grands protecteurs effectivement du monde rural sont effectivement les chasseurs. Moi, je suis rapporteur d'une mission à l'Assemblée nationale sur les usages donc de la nature et la cohabitation entre ceux qui usent de la nature. Et à chaque fois, on a pu remarquer durant nos auditions, ça a été une quarantaine d'heures d'audition, donc c'est pas un petit travail, on a pu remarquer que finalement, les chasseurs sont la solution pour protéger la biodiversité, la solution pour accompagner les écoles, pour expliquer ce que c'est le monde rural, pour expliquer ce que sont parfois les espèces. Donc moi, je suis de ceux qui ne veulent pas opposer, si vous voulez, le monde de la chasse et le monde de la protection animale ou de la biodiversité. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on veut à tout prix opposer les hommes aux femmes, les grands-petits, les patrons, ouvriers, et je pourrais en sortir comme ça encore pendant 10 minutes, si vous voulez. Mais je crois qu'il faut absolument travailler, et c'est ce qu'on fait au Rassemblement National avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, à ce qu'on n'oppose pas effectivement ce monde rural où on défend d'un côté effectivement une production, où on défend les animaux, mais aussi on peut aussi largement souligner que les chasseurs font un travail formidable au service de la biodiversité.
Combien ça coûte aux contribuables, je sais pas, mettons, rapporté au nom de Mathieu, un loup, ouais, en fait,
un loup, c'est 60 000 euros par an aux contribuables. On a environ 1000 loups sur le territoire le territoire français. On n'est pas certain de cela, comme je vous l'ai dit, de surveiller le loup est très, très, très difficile. Souvent, c'est par piège photographique que l'on voit des meutes se déplacer. Je le disais, hein, le loup vous surveille pendant que vous, vous pensez le surveiller. C'est 60 000 euros le loup, en fait, et sans compter, alors, sans compter effectivement ce que ça coûte quand il atteint certaines espèces. Et puis, je pense à nos éleveurs d'agneaux, puisque ce sont naturellement les bêtes qui ont le moins de défense. Donc oui, un loup, ça coûte très cher, la gestion coûte très cher, l'OFB, pour ce qu'elle fait, coûte très cher, évidemment, à l'État. C'est 600 millions d'euros annuels pour la, comment dirais-je, le fonctionnement de l'Office français de la biodiversité.
Je vais laisser la parole à mes chroniqueurs qui ont souvent des questions à vous poser, mais dernière question avant cela. Il y a, quand on ramène au nombre de bêtes tuées, par rapport au cheptel français, ovins, bovins confondus, on s'aperçoit qu'en réalité, le chiffre prélevé par les loups est de l'ordre de 0,013, on est vraiment sur un chiffre infinitésimal comparé à la population du cheptel. J'aurais presque envie de vous dire, est-ce que c'est si important vu finalement le peu d'impact que ça a sur l'élevage français?
C'est-à-dire que c'est très concentré déjà par rapport à nos régions. Je le disais, le loup est arrivé par le Mercantour en venant d'Italie. Il remonte surtout sur le flanc est, même si on sait qu'il y en a dans les Pyrénées. Mais c'est très concentré quand vous êtes un éleveur. De Saône-et-Loire, j'ai rencontré un éleveur d'agneaux et que toutes les semaines vous avez 2, 3, 4 agneaux prédatés, je peux vous dire que c'est difficile à vivre parce qu'il y a le coût moral aussi de l'agriculteur qui doit être pris en compte. Et c'est pour ça que nous avons axé nos travaux avec le RN, évidemment dans ce sens, pour mieux lutter contre le loup.
Étienne Darjac.
Moi, je trouve que vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est de très pertinent, monsieur le député, sur le fait qu'il ne fallait pas nécessairement opposer les éleveurs, les chasseurs et les gens qui sont favorables au retour du loup. Je trouve que la question du loup, elle échappe un peu à toutes les cases dont on parle habituellement pour la chasse, pour l'agriculture, sur les écolos. La question du loup, elle est millénaire, vous l'avez dit, en France, ça a été longtemps presque une figure mythologique de notre histoire. Il y a eu littéralement des mythes qui ont été créés sur la base du loup, la bête du Gévaudan, ce genre de choses, des choses qui sont profondément ancré dans l'histoire, dans l'inconscient français. Donc, il est tout à fait sain, je trouve, que depuis 30, 40 ans, 50 ans, on essaie de réintroduire le loup, à petit, pas de loup, j'allais dire, parce que c'est, je pense, une bonne chose que cet animal-là revienne dans la vie collective des Français, comme il l'a toujours été. Néanmoins, il est évident que des éleveurs qui, comme vous l'avez dit, c'est très important, ont un coût moral terrible, parce que pour avoir déjà assisté à des scènes comme ça, c'est terrible pour un éleveur de retrouver ses bêtes massacrées. Il est évidemment normal de pouvoir donner à ses éleveurs le droit de se battre contre le loup, comme en fait les éleveurs français l'ont toujours fait pendant des siècles et des siècles. Et je crois que c'est cette vision-là équilibrée des choses qu'il faut avoir. Il ne faut pas faire du loup un gibier comme les autres, parce que c'est pas le cas.
Il faut déjà pas faire... ça se mange pas.
Déjà ça se mange pas, enfin, je pense pas. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Mais surtout, c'est pour moi, je range vraiment ça. C'est une catégorie à part, c'est un sujet à part. Ça dépasse un peu, j'allais dire, les querelles du quotidien. Et vraiment, il y a une part mythologique, poétique dans cette histoire que je trouve importante.
Oui, absolument. Et ça me permet de souligner le travail extraordinaire des lieutenants de louveterie. Et pour parler de mythologie et de cette fascination qu'ont eu les gens et qu'ont les gens vis-à-vis du loup, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel. Je vais raconter quelque chose, une petite anecdote. Souvent, et de plus en plus, on contraint nos cultures régionales, on contraint nos traditions, et parfois on s'en moque aussi, ça arrive. Mais vous savez pourquoi les lieutenants louveteries sont encore là? Parce qu'on le sait, hein, sous la fin de l'Ancien Régime, et ils ont été abrogés, après remis en service par Napoléon Ier, et puis c'est un décret de 77 qui a redonné un petit peu de compétences aux lieutenants. C'est parce qu'ils ont maintenu leur tradition. Et ce côté folklorique, où ils représentaient parfois, évidemment, leurs fonctions sur le territoire national, qu'on sait qu'ils existent, ils existent encore, qu'ils sont là et qu'ils peuvent servir.
Ils ont encore le savoir-faire.
Ils ont le savoir-faire, absolument, qui s'est perpétué de manière orale, en réalité, depuis plus de 1000 ans. Et pour répondre concrètement à votre question, la gestion du loup, justement, inclut toute cette histoire, tout ce passé que l'on a. Et moi, j'ai répété plusieurs fois en hémicycle, effectivement, qu'on n'allait pas éradiquer le loup, mais pour toutes les raisons qu'on vient de toute façon de donner sur le plateau. Ensuite, on a eu des victoires concrètes, parce que jusqu'ici, pour qu'un éleveur puisse se défendre vis-à-vis d'un loup, c'était vraiment une complexité incroyable, administrative incroyable. Aujourd'hui, grâce au Rassemblement National, on verra ce que ça fera au retour du texte après le Sénat et au vote solennel, mais en tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le RN a réussi à déposer un amendement et à faire voter un amendement qui permet à l'éleveur, effectivement, de pouvoir, je dirais, atteindre le loup dès lors qu'il pose un danger imminent devant sa propriété ou dans sa propriété. Et ça, ça change tout pour l'éleveur. Et ne faisons pas non plus de l'éleveur un régulateur. C'est pour ça que les lieutenants louveteries seront là pour l'appuyer.
Et il y a notamment il y avait le débat autour d'une présomption de légitime défense pour l'éleveur, pour l'éleveur qui était mis face au loup. Est-ce que ça a été voté ça, finalement?
Absolument, c'est exactement cet amendement. D'ailleurs, je salue le travail de mon collègue David Magnier, député de l'Oise. C'est lui qui a rédigé et qui a porté cet amendement avec notre groupe à l'Assemblée nationale. Et on a réussi à inclure cette légitime défense et en disant qu'à la fin, de toute façon, c'est le juge qui décidera effectivement si l'éleveur était en état de légitime défense.
Vous êtes bien l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault, je suis en plateau avec l'éditorialiste Étienne Darjac, le journaliste chez Valeurs Actuelles Thomas Morel, et nous sommes avec Emmanuel Bléry, député Rassemblement National de la première circonscription du Pas-de-Calais, avec qui nous parlons de comment réguler le loup, puisque une partie d'un projet de loi débattu en ce moment à l'Assemblée nationale comporte ce volet. Thomas Morel, vous aviez une question, une remarque à faire aux députés.
Comme vous expliquiez tout à l'heure, globalement, votre groupe porte cette loi et défend effectivement la position des agriculteurs, le besoin de réguler cette population de loup. Comment est-ce que, quand vous parlez aux députés des autres groupes, comment est-ce qu'ils voient ce texte? Est-ce qu'effectivement, ils pensent que c'est un travail nécessaire? Est-ce qu'ils sont fondamentalement hostiles au fait de s'attaquer au loup?
Alors, vous avez raison de poser cette question. Évidemment que les députés de circonscription impactés, je pense à mon collègue Christophe Benz de la Haute-Marne, qui est donc le département le plus impacté, se sont complètement concernés par ce sujet. Et d'autres députés, naturellement, moins. Mais je crois au moment où, justement, nous devons donner le maximum pour nos agriculteurs, vraiment le maximum, et je le dis tout à fait entre parenthèses, ce projet de loi du gouvernement ne changera quasiment strictement à rien au lendemain de nos agriculteurs. Sauf peut-être justement cet article 14 sur le loup qui, effectivement, commet quelques avancées. Donc, à nous, effectivement, d'aller faire de la pédagogie, d'expliquer de l'importance de légiférer, évidemment, sur cette question hautement importante. Et puis, bien sûr qu'il y a des questions de sécurité publique à travers cela, mais c'est surtout une question de souveraineté alimentaire. Le loup, aujourd'hui, impacte la souveraineté alimentaire. Si c'était pas le cas, eh ben, il y a aucun souci. On essaierait de cohabiter avec le loup. D'ailleurs, l'extrême gauche, encore hier, durant les débats, pour eux, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. 13 000 bêtes qui ont été donc prédatées, c'est pas grave. Et on laisse les choses ainsi. Non, on a les moyens de légiférer. Le peuple nous a fait confiance pour ce faire. Donc oui, on va tenter de convaincre certains députés qui ne sont pas impactés. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a réussi à faire adopter cet amendement de mon collègue Magnier, j'en parlais tout à l'heure.
Par ailleurs, on expliquait un peu plus tôt également que l'OFB, que en gros la France impose un nombre de normes colossales sur les agriculteurs, des règles que tout ça leur complique la vie, que l'Office français pour la biodiversité n'arrange pas les choses. Vous n'avez pas peur qu'en rajoutant encore des lois et des textes, des machins, on ne résolve pas le problème, on fasse que le déplacer et juste rajouter d'autres piles de textes à remplir pour un agriculteur qui voudra se débarrasser d'un loup, solliciter quelque chose, etc.
Bah, vous savez, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, on votait 2 ou 3 lois par an, et aujourd'hui on peut voter lors d'une niche parlementaire 5 ou 6 textes. Oui, ça peut être un peu trop. D'ailleurs, maintenant on a des lois de simplification. C'est-à-dire qu'on a complexifié. Même les lois de simplification parfois complexifient effectivement l'arsenal législatif. Moi, je vous rejoins totalement sur cela. Mais je crois que sur cette question du loup, il y avait matière à faire pour le coup, réellement. Il y avait matière à faire, il y a matière à débattre, et puis malgré tout, l'ensemble des députés s'est donc mis d'accord, puisque l'article est passé et a été complètement amélioré à la suite de la rédaction par le gouvernement.
Message d'un auditeur, il y a quelques dizaines de minutes, au début de cet entretien, je suis rural, chasseur, et je vis en zone agricole, et je veux des loups, le loup comme l'ours faisant partie intégrante de la nature. Bonne synthèse, Emmanuel Bléry.
Absolument, je n'ai pas dit le contraire. Bien justement, le loup fait partie intégrante de nos paysages. On demande une gestion cynégétique de celui-ci pour préserver l'espèce d'un côté, tout en préservant effectivement les exploitations et nos éleveurs qui font un boulot formidable au service de la France. C'est ça l'équilibre qu'on doit aller chercher.
Il nous reste 5 minutes, Emmanuel Bléry. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un an se tiendra l'élection présidentielle de 2027. Alors si on ne sait pas encore qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella représentera le Rassemblement National lors de cette élection, on commence à voir un petit peu les adversaires potentiels se mettre en place. Et on a l'impression, si on lit certaines presse, qu'il y a un petit peu une incertitude stratégique au Rassemblement National, qui est de dire est-ce qu'on sera au second tour face à Jean-Luc Mélenchon ou face à un candidat du Bloc Central. J'ai un peu envie de vous poser la question, Emmanuel Bléry, ce serait quoi le meilleur adversaire pour vous? Est-ce que ce serait Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que ce serait Gabriel Attal, Édouard Philippe, enfin quelqu'un représentant ce courant de pensée?
J'ai envie de vous dire que c'est aux Français de décider. D'ailleurs, si c'est l'un ou si c'est l'autre, si c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon ou Gabriel Attal ou Édouard Philippe, les uns ont appelé à voter pour les autres à un moment donné. Donc nous, on sera en tout cas face, et je l'espère, au second tour. Et vous savez, la politique, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à quantifier, à analyser. On doit se mobiliser absolument le camp de nos idées pour arriver au second tour. Et puis, la prochaine étape, ce sera effectivement le second tour. Faisons les choses par étape. Mais je crois que les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien vu, durant ces dernières années, et notamment, on l'a vu à la dissolution, que les uns ont fortement appelé à voter pour les autres. Et ça a donné toute cette politique aujourd'hui complètement, je dirais, tapageuse pour les Français. Maintenant, je vois M. Attal arriver, faire sa campagne, justement, à la campagne.
Vous en avez pensé quoi, justement, de ce départ en campagne de Gabriel Attal?
Pardon, c'était grotesque, en fait. Pardon, mais je le dis avec beaucoup de mesure. Il a été l'un de ceux qui a dégainé le macronisme contre les Français, à l'instar d'Edouard Philippe, qui lui a été le premier. Et il va à l'aventure dans la campagne, à la campagne, pour faire campagne. Et tout le monde, enfin, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu ici ou là beaucoup de commentaires de gens pas forcément très politisés qui ont trouvé ça grotesque. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire.
Merci, Emmanuel Bléry, d'avoir été avec nous dans cette émission. Restons courtois, animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à ces questions sur le loup et sur l'élection présidentielle à venir. À moins que l'un d'entre vous ait une dernière question à poser aux députés. Eh ben, on vous libère, Emmanuel Bléry. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci.
Restez avec nous aussi, chers auditeurs, puisque petit court message de votre radio, petit instant musical, et on vous revient tout de suite pour le reste de l'actualité. À tout de suite.
Restons courtois. Marc Hainaut. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et de retour à l'antenne de l'émission Restons Courtois, l'émission tous les jours de 17h30 à 19h30 à l'antenne de Radio Courtoisie. Comme nous sommes jeudi, c'est Valeurs Actuelles, je suis Marc Hainaut et je suis avec Étienne Darjac et Thomas Morel. Nous venons d'écouter le député du Rassemblement National Emmanuel Bléry qui en ce moment à l'Assemblée pour défendre une plus juste, on va dire, un plus juste rééquilibrage de la présence du loup sur le territoire national. On sait que le loup fait son grand retour, que dans certains départements...
Il y a même un loup qui a été attaché dans le Berry, figurez-vous, il y a quelques mois.
Et pourquoi vous me dites ça spécialement?
Parce que nous sommes berrichons tous les deux.
Je sais.
Attention!
Dieu merci, c'était pas de mon côté.
Oui.
C'était pas de mon côté, mais...
C'était du mien, en revanche.
Ah, et alors, vous l'avez pas vu?
Non.
Vous n'avez jamais vu le loup, Étienne?
Non, jamais.
Très bien. On va continuer de parler de l'élection présidentielle à Morel et à deux doigts de quitter le studio. On va parler de l'élection présidentielle. Allez, on reprend notre sérieux, messieurs. Je sais que la semaine a été longue. Nos auditeurs vont commencer à se demander s'ils sont pas sur France Inter ou sur Pierre, sur Radio Nova. On va donc parler du reste de l'actualité. Je rappelle que vous pouvez intervenir dans cette émission à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr et nous répondrons bien évidemment à toutes vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions par téléphone au 01 46 51 00 85. On a évoqué en fin d'entretien avec Emmanuel Bléry la question de savoir si on en croit les sondages, en tout cas, qui le Rassemblement National affrontera au second tour. Est-ce que ce sera le Bloc Central? Est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon? Bien évidemment, ce ne sont que des sondages à un an de l'élection. Étienne Darjac, vous avez un pronostic d'ailleurs?
Alors, pronostic, non, je pense qu'elle est très très difficile à pronostiquer, cette présidentielle. Mais en tout cas, alors une analyse, ça serait beaucoup dire, ça serait me mettre en avant, mais j'ai tendance à penser et que ce soit Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon, ou par ailleurs un autre candidat du Bloc central, ça ne doit pas en profondeur changer profondément la stratégie du RN. C'est puisque c'est d'eux dont on parle. Sans vouloir être impertinent avec le RN, c'est Éric Zemmour, je crois, qui avait dit, alors je pense que ça devait être pendant la campagne des européennes, qu'Emmanuel Macron préparait Jean-Luc Mélenchon.
Ouais.
Pourquoi il disait ça? Il disait ça parce que, in fine, les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron étaient les mêmes que les conséquences de la politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est juste que Emmanuel Macron faisait, et quand il dit Emmanuel Macron, il parle évidemment de tout son monde, hein, du macronisme, ce sont juste des gens qui font les choses beaucoup plus lentement, en disant encore deux minutes, monsieur le bourreau, quoi, ouais, et en ralentissant un peu le naufrage.
Il y en a un qui prend la départementale, l'autre l'autoroute, et ils vont au même endroit.
Exactement,
quoi, en fait,
par ailleurs, le macronisme prend la départementale à 80 km/h, évidemment.
Et ça, ce sera versé au bilan d'Edouard Philippe pendant sa campagne présidentielle.
Donc en fait, si vous voulez, si. Alors après, évidemment, cet argument-là d'Éric Zemmour, forcément, quand on connaît Éric Zemmour, c'est un argument très identitaire, très civilisationnel, même si c'est tout aussi valable sur les plans économiques, hein, par ailleurs. Donc, c'est pas nécessairement ce qui colle le plus à une campagne que pourrait mener le RN à un premier tour de présidentiel. Mais, à la fin des fins, si vous voulez, dans la perspective où est le pays aujourd'hui, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, la campagne que doit faire le RN au premier tour, bon, je suis personne pour dire à quoi elle doit ressembler. Julien Sanchez, qui vient d'être nommé directeur de campagne, le dira mieux que nous.
Absolument.
Je pense qu'elle ne doit pas se focaliser sur qui on va potentiellement affronter peut-être au second tour, d'autant que, je le rappelle, on n'est vraiment pas sûr du tout de qui sera au second tour, mais plutôt quel projet de société, quels éléments on met en avant pour être en mesure de battre n'importe quel adversaire au second tour, en fait.
Thomas Morel.
Oui, alors, je pense que fondamentalement, pour l'instant, la présidentielle, c'est pas un gros sujet de préoccupation des Français.
Non, effectivement.
Oui, quand on voit, quand on leur demande, globalement, c'est 5e, 6e, 7e place, 7e rang de leur préoccupation. Donc, c'est effectivement pas très, très important. Et du coup, le fait que, pour l'instant, Édouard Philippe soit parti très longtemps en avance, mais bon, plus personne parle beaucoup de lui, à part effectivement tout à l'heure sur France Inter. Voilà, et que Gabriel Attal se soit lancé, mais que bon, globalement, ça fasse pas énormément de bruit pour l'instant. Tout ça n'est pas très important parce que toute cette séquence là jusqu'à l'été en réalité sera totalement oubliée des Français à la rentrée.
Il y en a une qui s'est lancée un peu en avance aussi, Thomas Morel, c'est la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Alors Marine Tondelier, donc qui à la fois est candidate à l'élection présidentielle et en même temps voudrait passer par la primaire, mais fait une campagne comme si elle n'allait pas à la primaire. Enfin bref, quelque chose d'assez étrange. Et sa dernière proposition en date, c'est elle veut une assemblée nationale des enfants. On savait que la gauche était pour le droit de vote à 16 ans, on sait qu'elle est... truc de gauche, quoi.
C'est la suite logique, c'est-à-dire que vous faites vote à 16 ans, puis à 14 ans, puis à 12 ans, puis à la fin, on élit
des enfants.
C'est surtout... tout ça participe d'une espèce de passion pour le jeunisme, qui est très étrange dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon a quand même 78 ans, mais que tout l'hémisphère gauche politique français a pour dire « les vieux, on les aime pas », globalement parce qu'ils votent à droite. Mais qui fait que...
Si seulement.
Oui, pour la gauche, la droite commence à peu près à
Rappel-Glucksmann. Je vous rappelle que Bruno Retailleau, c'est un néo-nazi pour la gauche.
Voilà, c'est vrai.
Étienne Darjac.
S'il savait.
Mais donc, tout ça a parti d'une espèce d'étrangisme. Ce qui était très étonnant, c'est qu'elle fait cette conférence de presse. Elle invite une vingtaine d'enfants entre 4 et 15 ans quand même. Donc on n'est pas non plus sur des 12 ans. On parle d'enfants de 4 ans, si vous voulez, qu'elle veut être dans son Assemblée nationale des enfants.
4 ans.
Le plus jeune avait 4 ans.
4 ans.
Les parents sont invités parce qu'effectivement, quand vous avez des enfants aussi jeunes, vous ne pouvez pas dire aux parents, vous venez pas. En ce moment, ce serait quand même très, très mal.
Oui, surtout si c'est tenu par les agents du palais scolaire
exactement.
De la ville de Paris.
Mais les parents avaient le droit de venir, mais surtout, ils devaient rester dans le fond et se taire. Et du coup, il y a toujours ce côté. Ce qui nous ramène aussi, d'ailleurs, un peu, discrétion, à Greta Thunberg et à tous ces mouvements qui disent qu'en fait, l'avenir appartient aux jeunes, que les jeunes vont réparer les erreurs de leurs prédécesseurs, et que donc il faut leur faire confiance totalement. En Chine, la révolution culturelle a été essentiellement menée par des jeunes. Ça a été l'un des pires massacres. Puis
les Khmer rouges, etc. Ouais. Enfin, on peut tous les faire.
Bref, ouais, on peut toujours faire confiance à la jeunesse pour choisir la plus mauvaise des décisions.
Étienne Darzac.
Moi, je trouve que cette proposition est d'une telle bêtise absolument évidente pour tous qu'il ne sert à rien de la commenter. J'ai simplement une théorie.
Mais je vais toutefois la commenter.
Non, j'ai juste une petite blagounette à vous faire. Comme vous le savez tous, Marie Tondelier est enceinte. Elle a été... extrêmement vocal à ce sujet.
Et c'est une excellente nouvelle, et oui, on félicite mieux,
bravo,
d'ailleurs.
Bravo à Marine Tondelier pour le réarmement démographique de la France. Moi, je pense que cette proposition qu'elle a formulée vise tout simplement à obtenir un poste à son futur enfant dès ses 4 ans.
Vous pensez qu'elle lui prépare un mandat de député
absolument,
dès ses 4 ans
absolument.
C'est pas bête.
C'est une théorie du complot que je vous propose aujourd'hui.
C'est pas bête.
Soumettre au vote.
Écoutez, s'il y a une commission nationale d'investiture pour les candidats législatives.
Je trouve ça très, très, très soupçonneux.
J'ai quelques candidats à proposer, du coup.
C'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez.
De plus en plus, d'ailleurs.
Merci.
Marine Tondelier se comporte comme une candidate à la présidentielle. Pour l'instant, elle a quand même dit qu'elle voulait une primaire de la gauche. Donc, si ça se trouve, elle parle pour ne rien dire, puisqu'elle ne sera même pas candidate.
Ça, c'est la question.
D'une manière générale, elle parle pour ne rien dire.
Je rappelle que je suis
éditorialiste, évidemment, que mes propos n'engagent pas du tout Marc Lano.
Alors, ceci dit, c'est marrant que vous disiez ça, Étienne, parce que je suis sûr que vous n'avez pas lu Le Valeurs Actuelles cette semaine.
Non, certainement pas.
Je vous en prie.
Vous n'avez toujours pas envoyé mon abonnement que vous me promettez depuis un an en même temps.
J'ai promis ça, moi.
Oui.
Écoutez, il y a un 2 pages absolument formidable sur François Ruffin, et je le dis d'autant plus objectivement que c'est moi qui l'ai écrit. Il y a cette phrase absolument terrible. D'un écologiste, évidemment, qui parle sous le sceau du secret, mais qui dit Ruffin, au fond, c'est l'anti-Marine Tondelier. Il dit mal des choses intelligentes quand Marine dit bien des énormités. C'est assez bien résumé, j'ai trouvé. On doit taire son nom parce que.
C'est un off.
Non, c'est ce qu'on appelle pudiquement un off. Si les gens savaient qu'il parlait à Valeurs Actuelles, il lui arriverait assez facilement des bricoles, mais qui est un très bon, très bon contact.
Je sais qui c'est.
Je suis sûr que non. Vous ne pouvez pas savoir. Un bon journaliste, ça donne une information. Un très bon journaliste, ça maintient le secret des sources.
Bravo, Marc.
Merci à vous.
En tout cas, je lirai votre article que j'imagine passionnant. Et c'est vrai que dans tous les nuls dont on parle depuis tout à l'heure, on n'a pas assez parlé de François Ruffin. Et c'est dommage.
François Ruffin est-il un homme gauche ou un homme de gauche? C'est la question.
Les deux, mon capitaine.
Excusez-moi, Étienne, on va juste mettre un peu de cadre dans tout cela. Je rappelle que vous êtes à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, que nous parlons des putatifs candidats à l'élection présidentielle. Nous avons, à gauche, effectivement, nous avons bien évidemment Jean-Luc Mélenchon. Nous avons évoqué Marine Tondelier. Nous pouvons effectivement évoquer François Ruffin. François Ruffin, député de la Somme. François Ruffin qui a eu
Député
journaliste, puisque nous sommes à l'antenne de Radio Courtoisie. François Ruffin, qui est élu depuis 2017, qui a failli perdre son mandat à l'occasion de la dissolution, puisqu'il est arrivé largement derrière la candidate du Rassemblement National. Il lui a fallu, et ça c'est terrible, tout le soutien du Bloc Central et des macronistes pour garder son siège. Pour celui qui s'était fait connaître un peu en 2018 en organisant la fête à Macron dans la Somme, qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes, ça la fout mal. Ça la fout mal de se retrouver à faire campagne contre Jean-Luc Mélenchon et avec le soutien des macronistes pour garder son siège. C'est quelque chose qui pourrait passer pour quelque chose de pas top pour la suite de sa carrière.
Par ailleurs, il a le problème, à mon avis, qu'il fait partie de ces candidats de gauche. On va pas dire qu'on les aime autour de ce plateau, mais dont au moins on comprend le logiciel.
Ouais.
C'est un peu, il vient voir très très déformant.
Non, idéologiquement, on parle pas du parcours personnel, on parle de l'idéologie.
C'est Dominique Villepin, c'est un ancien mec de droite que toute la gauche adore parce qu'il dit des choses qu'ils ont envie d'entendre. Donc ils se disent, je ne vais jamais voter pour lui, mais ça me va de débattre avec lui. François Ruffin a un peu ce même miroir, c'est-à-dire qu'il dit les choses, on ne sera jamais d'accord avec lui, mais en revanche, on se dit effectivement, dans un débat, on pourrait s'entendre, on pourrait parler, dialoguer, on n'arrivera jamais à la chose à la fin.
En fait, voilà. On se dit ça par opposition à la figure de Mélenchon, en fait. En fait, le raisonnement qu'on a, c'est qu'il n'est pas aussi taré que Mélenchon.
Absolument. Ouais. Mais du coup, la réalité, c'est qu'il ne plaira jamais. Enfin, les seuls gens qui seront jamais d'accord avec lui sont des gens qui votent à droite. Et donc, en réalité, il a pas de vote à gauche. Et
c'est le syndrome Roussel, en fait. Donc,
c'est le syndrome
Montebourg aussi.
Ouais. Moi, je pense que sa candidature finira comme celle de Montebourg.
C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas.
Exactement. Moi, je suis très sérieux.
Il n'y aura pas de candidature.
J'ai une autre petite théorie comme ça, comparaison, si vous voulez, je vous l'offre.
Allez-y,
je pense que Villepin est le futur Taubira. C'est exactement le même profil aussi. C'est-à-dire que la campagne de Villepin se terminera comme la campagne de Taubira en 2022.
En 2002
2020.
Ah, 2022. Ah oui, vous parlez au moment où elle avait été désignée par la primaire de l'Union Populaire.
Candidate en 2022. Mais c'est exactement le même profil de semi-intellectuel verbeux qui se crée une réputation de chevalier des arts et des lettres politiques et qui finira lamentablement à 3%.
Juste, vous vous rendez compte ce que c'est quand même pour un journaliste politique entre 2017 et 2024, ne serait-ce que les changements de l'Assemblée nationale. Enfin, vous imaginez tous les noms qu'on a à retenir, tous les événements qu'on a. Enfin, c'est terrible. Honnêtement, j'ai écrit un bouquin sur le bilan d'Emmanuel Macron, donc je peux en parler. Etienne, arrêtez de lever les yeux au ciel.
Quand on
remonte, c'est l'émission de l'heure actuelle. Hein, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est moi qui anime. Entre 2017, on monte au premier moment du macronisme en 2017, c'était il y a 9 ans, on a l'impression que c'était il y a 40 ans en fait. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il s'est passé tellement de choses en mal d'ailleurs, que le macronisme s'étire de manière interminable. Quoi. Quelle fin de règne interminable.
J'avais 18 ans, vous vous rendez compte?
Ah la vache, vous étiez majeur quand même, donc vous n'auriez pas pu participer à l'Assemblée des enfants, c'était la
vie. Non, mais j'ai voté pour la première fois en 2017.
Très bien, on ne demandera pas pour qui vous avez voté, ça ne se fait pas. Non, ne dites pas là.
Pour rebondir, je regardais récemment une photo des ministres des Finances du G7 qui se réunissaient tous en France. Et en fait, j'étais pas capable de dire lequel c'était le ministre de la France.
Ça fait oui.
Bah, c'est Lombard, non?
Non, bah, plus non, du tout, voyons. L'escure. Enfin, c'est Roland Lescure maintenant. Il est chauve aussi. Faut suivre.
Ah, c'est Roland Lescure, très juste.
Oui, absolument.
Voilà, oui, j'ai joué avec un très bon ami que vous connaissez fort bien, qui s'appelle Stanislas Rigaud. On a fait un jeu il y a pas très longtemps en soirée. On s'est nommé plus de 5 ministres.
Actuels. Ah, est-ce qu'on tente le jeu là?
Bah, je vous garantis, c'est pas évident.
Allez, je commence.
Retailleau,
Darmanin. Non. Nunez, Darmanin. Genevard. Lescure. Et Stéphanie Rist. Allez, hop.
Stéphanie Rist, je sais pas qui c'est.
Ouais, elle est.
Edouard Geffray.
Edouard Geffray, bien joué.
Question nationale. C'est tout, hein.
J'ai presque envie. Thomas Morel, allez-y, faites le jeu.
Le petit jeu de la fin de l'émission.
Je suis totalement incapable.
Non, mais ça me dit quand même. Si on
se retrouve,
dit quelque chose quand même de l'effondrement du macronisme. C'est-à-dire qu'on va chercher.
Et du défaut d'incarnation.
Voilà, c'est ça.
Le macronisme. Et c'est un peu une faiblesse satirique pour me remettre un tout petit peu de sérieux sur ce jeu délicieux que je vous ai proposé. C'est un peu le défaut, le péché originel du macronisme qui déjà. Là, on est arrivé à un tel point, si vous voulez, qu'on regrette les grands ténors du macronisme de 2017-2018. Enfin, faut pas s'oublier que les grands ténors du macronisme de 2017-2018, c'est les quatrième, cinquième couteaux de leur parti respectif.
C'est Bruno Le Maire qui était.
C'est Bruno Le Maire, c'est.
Qui n'a jamais réussi de sa carrière auparavant.
Oui, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup plus réussi depuis. c'est Édouard Philippe que personne ne connaissait avant ou. Ou de quelques fins journalistes politiques.
Je ne faisais pas partie à l'époque, d'ailleurs.
Donc, c'est quand même un parti qui s'est construit avec des gens qui ont sans doute pris très rapidement une ampleur qu'ils n'étaient pas appelés à prendre, en tout cas aussi vite.
Mais honnêtement, j'ai la liste du gouvernement sous les yeux, et c'est vrai que c'est terrible. Si je vous demande la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu.
Ah oui, c'est vrai.
Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce quand même, de l'artisanat et du tourisme.
C'est Super U, c'est l'ancien de Système U.
Serge Papin. Bien joué. Ah ok, c'est bon.
Comme Jean-Pierre Papin.
Je passais de la famille à Jean-Pierre, mais... ministre des Outre-mer, un dernier pour la route.
Bah c'est Valls.
Non.
Ah non, c'est plus Valls.
Non, c'est plus Valls. Naïma Moutchou. Alors, pour la petite anecdote, dans le gouvernement Lecornu 1, elle était ministre en charge du numérique, et dans Lecornu 2, elle est passée aux Outre-mer. Voilà. C'est pas parce que. Mais parce que pourquoi
pas.
Parce que pourquoi pas. Bref, excusez-nous, chers auditeurs, parce que la semaine a été un peu difficile, mais il est vrai.
On a très chaud.
Il est vrai que c'est extrêmement inquiétant de voir. Voilà, on revient au pire moment de la Troisième République où les gouvernements tombaient en 3 semaines et où finalement, il ne sert à rien d'apprendre les noms de gouvernements. C'est d'ailleurs. D'ailleurs, les ministres s'en plaignent assez régulièrement. Ils se posent tous la question comment agir pour le bien commun. Non, ça je déconne. Comment exister? Comment exister médiatiquement alors que personne ne me connaît, que potentiellement c'est terminé dans 3 jours. Enfin, c'est vrai que ministres, quand on pourrait dire en rigolant tout le monde peut être ministre, et ben en fait oui, visiblement, puisque Emmanuel Macron aura nommé, je pense, des centaines de ministres.
Il faudrait faire le compte, ce serait amusant de faire ça. Ouais.
Depuis 2017, en tout cas une aristocratie républicaine.
Bon, on peut aristocratie républicaine, je vous demanderai de retirer ce mot, s'il vous plaît, Marc. On pourrait. Non, je sais pas ce que je veux dire.
Il ne sait plus.
Les sinistres inconnus qui sont actuellement ministres peuvent se rassurer. On peut estimer que d'ici à la présidentielle, on aura, je pense pas, de nouveaux remaniements, j'imagine.
Mmh. A priori, non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit le président élu en 2027, il aura à prendre une décision, c'est-à-dire de dissoudre l'Assemblée nationale le lendemain de son élection. Et d'ailleurs, c'est amusant d'ailleurs de parler de l'élection présidentielle, il reste 40 secondes, mais en fait, est-ce que le vrai enjeu n'est pas tant savoir qui occupera l'Élysée, mais quelle majorité aura l'Assemblée nationale, puisque à l'heure actuelle, personne ne peut avoir de majorité absolue.
C'est très juste, et c'est d'autant plus intéressant comme question si on se projette dans une victoire du RN ou dans une victoire de Mélenchon, pourquoi pas. Parce que, bon, c'est quand même plus probable pour le RN, mais admettons que ces deux candidats-là puissent gagner le premier de la présidentielle, il est à peu près certain que s'il devait gagner, il ne remporterait pas de majorité absolue. Il y aurait un retour de bâton tout de suite à l'Assemblée nationale pour les bloquer.
Et une incapacité de constituer une majorité absolue et des accords de gouvernement, ce sera effectivement tout l'enjeu des élections législatives pour le vainqueur de l'élection présidentielle. Merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs, pour ce Restons Courtois. Retrouvez le Restons Courtois du vendredi, animé comme toutes les semaines par Boulevard Voltaire et par l'excellent Marc Baudrier. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité.
Ça suffit maintenant !